Salut Raphaël.
Salut Pat.
Donc, décision de la Cour suprême, je le disais en début d'émission quand on en parlait avec Philippe, au Québec, les souverainistes ont toujours soupçonné la Cour suprême de pencher d'un bord comme la Tour de Pise, donc du bord d'Ottawa. Mais de ce temps-là, aux États-Unis, la Cour suprême penche souvent d'un côté, disons, plus à droite, plus conservateur. Et aujourd'hui, Donald Trump a eu une mauvaise surprise.
Une belle mauvaise surprise. La deuxième de la semaine. Tu sais, c'est plus qu'une mauvaise surprise. En fait, c'est une gifle. Il y a eu celle de lundi dont on s'était parlé, là, sur l'interdiction de discriminer dans les milieux d'emploi sur la base de l'orientation sexuelle. Puis là, t'as celle de ce matin qui empêche, en fait, l'administration Trump d'abolir le programme qui avait été mis en place par l'administration précédente, celle de Barack Obama, qui permet aux immigrants qui ont traversé la frontière illégalement alors qu'ils étaient mineurs de rester au pays. Donc, il y en a beaucoup qui ont réagi très fortement, le président le premier, en se disant, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'on a une majorité qui est censée être conservatrice à la Cour et qu'on a des décisions comme celle de lundi et là comme celle d'aujourd'hui? De façon intéressante, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé lundi dans la mesure où c'est ultimement John Roberts, le juge en chef, qui a donné le coup de grâce en se ralliant à l'aile plus à gauche de la Cour. Donc, décision de 5-4. On est censé, je dis bien censé, de façon officielle, avoir 5 juges plus conservateurs. Là, tu en as eu 4 plus à gauche qui ont été aidés, si on veut, par M. Roberts qui a tranché de leur côté. Pour quiconque, par contre, je te dirais, là, qui connaît assez bien l'histoire de la Cour suprême, il y a quelque chose d'un petit peu amusant là-dedans parce que c'est pas si surprenant que ça, dans la mesure où ce qu'on a avec John Roberts, en fait, c'est la suite un peu logique là, d'une longue lignée de présidents républicains qui nomment des juges qu'ils croient conservateurs au moment de leur nomination, puis qui finissent un petit peu par se sentir comme s'ils s'étaient fait brûler une fois que les juges en question entrent en fonction.
Parce qu'il faut le dire, Raphaël Jacob, là, une fois que le juge est nommé, je veux dire, il n'y a plus personne qui peut le toucher.
T'as tout compris. C'est une nomination qui est à vie et qui ne peut être renversée. Et tu peux remonter au milieu du 20e siècle. Dwight Eisenhower, qui était un président républicain, qui avait nommé Earl Warren, juge en chef de la Cour, juge extraordinairement important, juge très à gauche également. Bien, Eisenhower avait dit de la nomination de Warren après coup, une fois en fait qu'il n'était même plus à la Maison-Blanche, mais que Warren, lui, était encore à la Cour suprême, que sa nomination, c'était, et là je cite Eisenhower, « la pire erreur d'idiot de toute ma présidence ». Après coup, tu as eu le président Bush père qui avait nommé David Souter, un autre juge qu'il croyait conservateur et qui, année après année, pendant plus de 20 ans, s'est rallié à l'aile gauche de la Cour. Et là, tu as eu son fils, le président Bush fils, le dernier président républicain avant Donald Trump, qui a nommé John Roberts. Dans le cas de M. Roberts, ce qui est fascinant, c'est que là, tu as les deux décisions de cette semaine qui, évidemment, frustrent la Maison-Blanche de Donald Trump. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 8 ans, mois pour mois, c'était en juin 2012, John Roberts avait également été la 5e voix qui était venue affirmer la constitutionnalité d'Obamacare, le fameux programme d'assurance santé qui avait été mis sur place par Barack Obama. Et on avait rapporté en 2012 que John Roberts avait trouvé un petit peu une espèce de raisonnement juridique conservateur pour appuyer une décision qui plaisait davantage à la gauche américaine. Autrement dit, Roberts savait à la base la décision qu'il voulait prendre et il a ajusté son raisonnement pour le justifier. Donc, la question logique sans doute qui suit, c'est pourquoi? Parce que John Roberts a une vision de la Cour suprême selon laquelle, selon lui, elle ne devrait pas venir bouleverser de façon vraiment majeure là, des parties importantes de la société américaine. Donc, tu ne devrais pas avoir 9 juges ou 5, tout au moins une majorité de 5 juges sur 9 qui, à eux seuls, viennent bouleverser le paysage social. Dans le cas d'Obamacare, si la Cour avait renversé la loi, ce que ça aurait fait, bien, c'est ça, tu aurais eu une magistrature, qui serait venue unilatéralement annuler l'assurance maladie de millions d'Américains. Aujourd'hui, si Roberts avait rendu une décision, entre guillemets, conservatrice du côté conservateur, bien, de façon pratique, ce que ça aurait fait, c'est que ça aurait carrément mis en danger le statut légal de protection de centaines de milliers de jeunes immigrants. Donc, si Donald Trump a raison sur une chose aujourd'hui, c'est que c'est vrai que c'est une décision qui n'est pas juste juridique, il y a un aspect politique, parce que clairement, Roberts a pris en compte l'aspect pratique de la décision.
Ce qui est extraordinaire, Raphaël, et Philippe en parlait tantôt, c'est l'attaque de Donald Trump sur, dans le fond, l'indépendance, l'autonomie de la Cour suprême. Je veux dire, il est en train de dire que ces gens-là sont illégitimes présentement sur Twitter, là.
Et ce qui est fascinant, ça te montre un petit peu l'état de panique dans lequel lui et la Maison-Blanche se trouvent, c'est que ça vient, on s'entend, mettre beaucoup d'eau dans le bateau là, de Donald Trump pour ce qui est de ses arguments pour sa réélection. Parce qu'en 2016, rappelons-le, là, l'enjeu de la Cour suprême, il était énorme, parce qu'à l'époque, il y avait un siège qui était vacant. On savait que le nouveau président, ou ça avait été Mme Clinton, la nouvelle présidente, effectuerait une nomination cruciale dès les premières semaines de sa présidence. Et donc, Donald Trump avait beaucoup, beaucoup, beaucoup misé là-dessus pour, je te dirais, se rallier les électeurs plus conservateurs qui, à l'époque, étaient peut-être pas vendus à la cause de M. Trump, mais se disaient, ben, écoutez, si au moins il nomme des juges conservateurs, ben, on va avoir des jugements qu'on va aimer. Là, c'est quoi cet argument-là, 4 ans plus tard? Choisissez-moi encore pour que je nomme plus de juges conservateurs? Tu sais, ça marche comme pas. Donc, c'est une décision qui, non seulement politiquement, mais électoralement, fait mal au président.
Philippe, si je... Philippe. C'est ça, on voit qu'il est dans la bara de Donald Trump, parce que là, il vient de déclarer sur Twitter qu'il va publier d'ici le 1er septembre prochain une liste de juges extrêmement conservateurs, et que s'il y a une nouvelle place qu'il se libère à la Cour suprême, et que c'est à lui de décider qui remplace, qui occupera le nouveau siège, ça va être quelqu'un qui va venir de cette liste-là.
Mais Philippe, sais-tu ce qui est intéressant là-dedans? C'est que, tu sais, je parlais de 2016, c'est exactement la stratégie que Donald Trump avait utilisée en 2016, de publier justement quelques mois avant l'élection une liste de juges dans laquelle il allait piger pour faire des nominations à la Cour. C'est ça qu'il a fait. Et dans cette liste-là, il y avait le nom de Neil Gorsuch, le premier juge qu'il a fini par nommer lorsqu'il est entré en fonction. Et on le rappelle pour ceux qui ne nous ont peut-être pas écoutés ou entendus lundi, qu'est-ce qu'a fait M. Gorsuch cette semaine? Bien, comme John Roberts, il s'est rallié à l'aile plus à gauche de la Cour pour infliger un revers quand même assez majeur à l'administration de Donald Trump. Fait que, disons que, encore une fois, c'est pas une semaine facile pour Donald Trump.
Merci beaucoup, Raph.
À demain.
On se reparle demain. Ben, Philippe, t'es libéré.
Ben oui, ben bonne soirée, Patrick.
Et on se retrouve demain pour la dernière de notre saison. Après ça, on va céder le micro à nos amis de l'équipe d'été, comme Marie-Claude Lavallée, qui va piloter l'émission. Donc, merci. OK, on prend une petite pause. Merci d'être là. Au retour, les chroniqueurs sont là, comme Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, et le député néo-démocrate Alexandre Boulris va être avec nous. Son chef, Jack Meeting, qui a des propos extrêmement controversés, disons, sur le racisme systémique et ceux qui n'y croient pas.